Québec annonçait hier un redéploiement du personnel. On veut envoyer du personnel dans les établissements. Immédiatement, on parle de 450 médecins dans les CHSLD pour du dépistage systématique de résidents. Il y a des problèmes, évidemment, beaucoup auprès des personnes âgées. Donc, on s'est dit, si là est le problème, on va essayer d'utiliser d'une autre façon notre personnel. On en jase ce matin avec le docteur Stéphane Tremblay, qui est PDG du CIUS de l'Estrichus. Monsieur Tremblay, bonjour.
Bonjour.
Alors, redéploiement d'infirmières et de médecins, ça touche beaucoup de votre personnel, plusieurs personnes?
Bien, écoutez, il faut le remettre en contexte. Je pense que l'annonce faite hier par Mme McCann doit être remise dans un contexte qui peut-être s'applique moins pour l'instant à l'Estrie, là, puis je vais m'expliquer, mais qui s'applique actuellement à d'autres régions du Québec. Pour nous, en Estrie, ce qu'on remarque actuellement, c'est bien sûr qu'on a les yeux rivés sur ce qui se passe dans les milieux de vie, hein, principalement pour les personnes âgées, mais ce n'est pas la situation qu'on peut voir, exemple, dans la ville de Laval ou ailleurs. Donc, il y a quelques centaines de résidents dans les milieux de vie, autant dans les CHSLD de l'établissement que des résidences pour personnes âgées qui ont été testées pour savoir si ces gens-là avaient la COVID-19 ou pas. Mais jusqu'à maintenant, l'ensemble, la très grande majorité des tests se sont avérés négatifs. Donc, on suit la situation de près. On est en lien avec nos partenaires également qui soutiennent les gens pour leur milieu de vie. En lien, ça veut dire de discuter avec eux qu'est-ce qu'ils seraient capables de mettre en place rapidement s'ils font face à une situation où un usager ou des usagers des résidents sont positifs, ou un employé, quelle est leur marge de manœuvre au niveau des employés, comment ils gèrent normalement les infections à l'intérieur de leur environnement physique, comment on peut les soutenir. Donc ça, c'est un premier levier là, qu'on travaille avec eux cette semaine. On devrait avoir les plans là, d'ici les prochains 24 heures. Et par la suite, bien sûr, si on a un partenaire qui a besoin de nous, autant du point de vue professionnel que du point de vue médical, on sera présent, ça c'est soyez assurés de cet élément-là.
Donc, à court terme, on n'a pas vraiment de redéploiement de personnel en Estrie vers les CHSLD ou autres résidences pour aînés, là.
Non, on le fait de façon très ponctuelle au cours de la dernière semaine là, pour une situation qui touchait principalement une résidence de type familial où il y avait 6 résidents là, qui étaient touchés là, de la COVID-19. On a fait de façon ponctuelle du personnel de l'établissement est allé soutenir cette résidence de type familial, mais au-delà de ça, on est plus à préparer une intervention, si vous voulez, parce qu'elle n'est pas encore nécessaire sur le territoire de l'Estrie.
Mais pourtant, on a plusieurs résidences. Je pense à celle du Manoir, à Racine, les 6 résidents là, d'un établissement qui accueille des personnes avec déficience intellectuelle dans le coin de Danville. On en a quand même plusieurs. Est-ce que c'est parce qu'on manque de personnel?
Pas du tout. La première chose, c'est que lorsque le personnel qui travaille déjà dans la résidence peut continuer à travailler, c'est la meilleure solution. Ils connaissent l'environnement, ils connaissent les résidents. Il faut vraiment les soutenir à ce qu'ils soient au travail. La deuxième chose, on parle juste du manoir de Sherbrooke. On a une infirmière de prévention et contrôle des infections qui s'est déplacée. On a fait des tests sur place. On les soutient en lien avec leur stratégie d'organisation du travail. Et oui, si un jour il manque de personnel, on va être présent. Ça, soyez assurés de ça. Mais on ne s'est pas rendu là. Pour Danville, pour les 6 résidents qui présentaient des particularités sur leur état de santé, bien sûr, on a eu du personnel qui est allé aider à la résidence pour quelques jours, mais on le fait de façon, si vous voulez, à évaluer la situation puis du cas par cas.
Est-ce que c'est préférable des fois à distance plutôt que de déployer du personnel de l'extérieur qui rentre dans un nouveau milieu? Est-ce que ça fait aussi partie de votre réflexion?
Bien, ça fait toujours partie de notre réflexion, mais le principal objectif qu'on a, c'est qu'on veut que les résidents restent en sécurité. Donc, c'est vraiment la finalité. Et si on a besoin de demander à notre personnel de se déplacer puis de soutenir un milieu de vie qui n'est pas un environnement de travail qui est très familier pour nous, nous allons le faire. C'est sûr qu'on demande beaucoup au personnel lorsqu'on leur demande de se déplacer dans des milieux qu'ils maîtrisent moins. On leur demande beaucoup. Par contre, il faut comprendre que l'établissement a une responsabilité populationnelle pour ses résidents, ses usagers. Donc, c'est aussi notre rôle d'être présent, comme l'exprime bien Mme McCann.
Autre aspect, on a eu plusieurs courriels de travailleurs qui nous disent « Ah, la pression est bonne, tu sais, l'ambiance n'est pas nécessairement facile parce qu'on est en période de pandémie, c'est une situation particulière. » Avez-vous un taux de démission élevé présentement?
Pas du tout. Non. Je peux vous dire que, encore une fois, je salue l'engagement des gens. Les gens rentrent au travail, sont présents, sont centrés sur la tâche. Je pense que la qualité des services, elle est très bonne, la qualité. On ne vit pas cet exode là, que vous nommez.
Autre affaire qui semble intéressante, au niveau du matériel, on nous dit qu'il y aurait eu de nouvelles consignes. On a une travailleuse, entre autres, qui dit Le port du masque est passé de 2 par quart de travail à 1 seul masque par quart de travail. Changement des gants qui sont utilisés, les gants de 12 pouces, des gants qui étaient plus longs, plus épais. Maintenant, on nous demande d'utiliser des plus petits gants. Mesures préventives parce qu'on manque de matériel?
Non, mais on ne manque... Je voudrais, pour avoir du matériel, c'est toujours l'équilibre entre ce qu'on consomme et ce qu'on reçoit. OK? Puis ça n'a pas changé, là. On vit, on travaille sur ces deux éléments-là depuis les 3-4 dernières semaines, donc ça reste encore une réalité comme telle. Le matériel, que ce soit les masques, les jaquettes, les gants, sont en quantité suffisante. La directive dont, à laquelle vous faites mention, en lien avec 2 masques par quart de travail versus 1 qu'on donne actuellement, on en donne 1 au départ du quart du travail. Si le masque est souillé ou mouillé, on va le changer. On est conscient que certains employés vont en avoir besoin de 3 ou de 4, alors qu'on est conscient que d'autres, un seul va suffire pour la journée en raison de leur environnement de travail. Donc, c'est un ajustement sur la directive qui est soutenue par l'Institut national de santé publique et qui est soutenue également par nos collègues du ministère de la Santé et des services sociaux. Donc, on a adopté une directive, mais soyez assurés que si nous avons un employé qui a besoin de plus d'un masque, qui en a besoin de 3 ou de 4 dans sa journée pour différentes raisons, il va les avoir.
Vous nous parlez de l'Institut national de santé publique du Québec. Il y a une nouvelle directive aussi qui a été envoyée disant qu'advenant une menace de rupture de service dans le réseau de la santé, des employés exposés à la maladie pourraient être sortis plus rapidement de leur quarantaine. Est-ce que c'est pas une directive un petit peu fragile dans le sens où, oui, on a besoin de notre personnel, on comprend que c'est une mesure d'urgence seulement, mais on ne veut pas infecter plus de monde non plus?
Non, écoutez, c'est clair aussi qu'on apprend à connaître la COVID-19. Là. C'est un virus qu'on ne connaissait pas vraiment. Donc, on apprend à connaître sa capacité d'être transféré d'une personne à l'autre. On apprend aussi à mieux maîtriser la période d'incubation. On sait que lorsqu'on a passé le cap des 7 à 8 jours post-dernier contact, donc la dernière personne qui était COVID-19 positif, lorsqu'on passe le cap des 7-8 jours par la suite, on sait que notre risque de développer la COVID-19 est beaucoup moindre. Mm-hmm. Donc, il y a différentes directives selon notre risque de contact au départ, s'il est jugé faible, modéré ou sévère. Et tout dépendant de ces risques-là, ça nous amène des comportements différents lorsqu'on passe le cap du 7 jours post-dernier contact, effectivement. Et oui, il se pourrait qu'on rappelle des gens après 7 jours de contact considérés un risque acceptable, mais qu'on lui demande ou qu'on leur demande à ce moment-là de porter, bien sûr, le masque là, lorsqu'ils rentrent au travail, s'ils sont asymptomatiques. Je tiens à le confirmer, à le mentionner.
OK. Je vous amènerai finalement, en terminant, sur la DPJ en Estrie, le principe de tutelle pour le grand public. Ça semble un concept un peu particulier, un peu difficile à comprendre. Là, on nous disait qu'on a beaucoup, beaucoup de cas à évaluer présentement. Est-ce qu'on va rediriger des services un peu là aussi? Est-ce qu'on peut leur prêter main forte?
Absolument. Donc, on le fait sur une base volontaire. Écoutez, effectivement, on a quand même tout près de 600 situations à évaluer et à orienter correctement. Mm-hmm. Donc, pour les professionnels, pour qui leur milieu de vie, normalement, est un peu ralenti parce que l'offre de service est moindre que ce qu'elle est en temps normal. Et effectivement, on a demandé sur une base volontaire s'ils acceptaient de venir prêter main forte à la DPJ et plusieurs ont répondu oui.
Merci beaucoup, M. Tremblay, d'avoir pris quelques minutes pour nous ce matin.
Merci, bonne journée.
Bonne journée.
Prenez soin de vous.
Monsieur Stéphane Tremblay, qui est PDG du CIUS de l'Estrichus, il y avait plusieurs dossiers, je pense, à revoir ce matin. Puis là, on voit quelles sont les consignes, en tout cas, du moins ce qui est annoncé.